Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans notre rendez-vous Zone Libre avec Yann Lejeune, vous êtes sur Phare FM à Gunnau, bonjour.
Bonjour.
Vous avez un style de vie plutôt original, c'est-à-dire que vous avez pour objectif d'atteindre le zéro déchet. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors déjà, je dirais pas original. Je trouve que c'est pas un mot qui convient dans le sens où il y a quand même de plus en plus de gens qui vont vers ça. Après, la difficulté, effectivement, c'est de trouver des lieux qui peuvent nous aider à aller vers cet objectif-là. Et donc, le zéro déchet, c'est réduire tout le plastique qu'on peut trouver autour de nous. Ça va avec le plastique, mais avec tous les déchets, hein, de manière générale, mais surtout le plastique, parce que quand on commence à faire attention, on se rend compte qu'il y a énormément de plastique partout autour de nous.
Justement, par rapport à cette surconsommation de plastique, d'où est-ce qu'elle vient, cette surconsommation, et qui est-ce qui est à l'origine de cette idée de tout suremballer ?
Alors, ça, pour simplifier un peu les choses, on va dire que c'est beaucoup les industriels qui sont venus avec ça. Et au début, comme pour beaucoup d'autres choses, on n'a pas réfléchi à l'après. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ah, oh, mais c'est merveilleux le plastique, on peut tout faire avec. On peut faire de l'emballage, on peut aller dans tous les secteurs différents, l'industrie, l'automobile, enfin voilà, ça se retrouve vraiment partout. Et le gros avantage, en fait, c'est que ça coûte pas cher. On peut le modifier à volonté, on peut en faire des couleurs différentes, etc., des formes différentes. Et donc, comme pour beaucoup de choses, on a commencé à l'utiliser, à tort et à travers. Et au bout de 50, 60, 60 ans d'industrialisation de masse, on s'est dit, mais tiens, en fait, il y en a partout. On le retrouve... Donc il y a le grand océan de plastique hein, qu'on entend souvent parler. Et on s'est dit, oh mince, il faudrait peut-être faire quelque chose quand même. Et donc, depuis quelques années, il y a une conscience quand même qui s'élève de plus en plus présente. Et notamment, nous, en Alsace, on est quand même plutôt pas mal là-dessus. Mais ça reste des petits mouvements. On n'est pas encore, c'est des mouvements de masse. Ça commence réellement à venir, à prendre de l'importance.
Justement, qu'est-ce qui doit changer peut-être au niveau personnel, peut-être familial, sociétal, politique, pour favoriser justement ce zéro déchet ?
Alors déjà, c'est une prise de conscience globale. Alors, il y a des gens qui s'en foutent royalement. Enfin, voilà, ça, c'est comme dans tout domaine. Hein. Mais il y a quand même une conscience globale et ça vient beaucoup des politiques et souvent, c'est ça qui manque. C'est-à-dire qu'il y a une conscience individuelle qui monte, clairement. Il y a une conscience collective, il y a des mouvements qui s'organisent comme Zero Waste ou Zero Déchet, un mouvement national puis au niveau de Strasbourg qui sont très actifs. Mais après, à côté de ça, puis des associations locales, etc., qui promeut ça. Mais il manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, à mon sens, c'est la politique. Il y a beaucoup de belles promesses, il y a beaucoup de le G7, enfin voilà, on fait des belles choses, c'est magnifique sur le papier. Mais souvent, au niveau pratique, derrière, ça met très longtemps et c'est des combats, tout simplement, hein, à Strasbourg, dans les cantines scolaires, pour enlever les plateaux en plastique et le fait que ça soit réchauffé dans le plastique, donc il y a des nanoparticules qui passent, etc., dans l'alimentation. Zero Waste, Strasbourg, ils ont mis une éternité à que ça soit accepté. C'était un combat, vraiment un combat très important. Et là, ça commence à... Ouais, il y a une conscience qui commence à venir. Mais c'est un ensemble. On ne peut pas juste l'individu lambda commencer à faire quelque chose si au niveau politique, industriel, il ne se passe rien. Et souvent, c'est ça la difficulté.
Donc, si je comprends bien, d'après ce que vous me dites, sensibiliser le français, intégrer le zéro déchet dans le pays et arriver à changer la mentalité au niveau de notre société, ça passerait premièrement par les politiques ou par une législation de l'État.
Complètement. Et en fait, il y a aussi une logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit, on se dit, tiens, après, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La logique du zéro déchet, c'est le contraire, c'est éviter le déchet, en fait. Donc, c'est dès la source, on se dit comment on peut faire pour qu'il y ait moins de déchets possibles.
Pour éviter justement de cette création ou cette utilisation de plastique abusive, l'utilisation de récipients personnels dans un grand magasin est envisageable. Est-ce que c'est autorisé ? Et est-ce que vous avez des exemples de magasins où c'est autorisé ?
Alors, en fait... Souvent, il y a de plus en plus de magasins qui le font. Et notamment, par exemple, Zero Waste à Strasbourg, qui a sorti une liste qui est disponible sur leur site internet de tous les endroits qui acceptent ce qu'on appelle le vrac, ou en tout cas, vous pouvez venir avec votre récipient, effectivement, et sans souci, qui acceptent. Et même s'il n'y a pas, donc souvent ils mettent un petit logo à l'entrée de l'enseigne, quoi. Mais même s'il n'y a pas ça, en fait, il suffit juste de demander. Mmh. La plupart des magasins, en fait, aujourd'hui acceptent. Après, déjà, il faut expliquer un petit peu la démarche de, voilà, c'est pour éviter le plastique, de les je ramène mon récipient, etc. Mais souvent aussi, c'est tout simplement d'oser demander. Et souvent, c'est ça qui est compliqué. C'est que on n'ose pas demander. Mmh. Et cette démarche, elle est compliquée. Mais par contre, une fois qu'on commence à la faire, en fait, on se rend compte que bah, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Et du coup, à force de le faire, en fait, ça devient un automatisme. Et partout, vous allez à la boulangerie, vous demandez pas papier qui emballe le pain et les croissants, etc.
Mmh.
Vous ramenez votre cabas, le sandwich, exactement. Mmh. Vous ramenez votre cabas, il n'y aura pas de souci là. Vous allez faire vos courses, vous ramenez vos tupperwares pour que le fromage, la viande, tout ce que vous voulez, il soit directement dans le tube. Et donc, il n'y a pas de plastique qui entoure l'aliment, plus encore le plastique qui alimente les autres aliments, plus le plastique de l'étiquette. Enfin voilà, quand on commence à prendre conscience, après, il faut y aller pas à pas et petit à petit, parce que après c'est aussi un travers, c'est-à-dire qu'on on voit plus que ça partout, et ça devient énervant en fait, parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup de structures qui s'en foutent royalement et qui font aucun effort, ou bien c'est que du commercial, c'est-à-dire que voilà, on fait semblant et puis derrière mais souvent il y a beaucoup de magasins qui acceptent sans souci, il suffit juste d'expliquer un peu la démarche. Après, c'est comme tout, hein, y a des gens qui ne comprennent pas. Mais en tout cas, vous avez fait la démarche et vous avez essayé de faire quelque chose. Et c'est le principe qu'on retrouve beaucoup dans le zéro déchet, c'est le principe du colibri. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma part.
Oui.
Et effectivement, c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que si chacun fait sa part, à un moment, eh ben, du coup, ça crée vraiment un mouvement, ça crée quelque chose et ça a un impact. Si tout le monde se dit « Ah, mais moi, à mon échelle, de toute façon, ça n'a pas d'importance par rapport à ma consommation. » Eh bien, en fait, si, ça a énormément d'importance. Et le fait, moi, je vois souvent dans les magasins, par exemple, pour acheter mes légumes, ou je vais souvent à la Cigale et la Fourmi, qui est à Cache-Faïgouze, près du Auchan, pour faire mes courses. Donc, il y a pas mal de vrac, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes. Il y a l'entrepôt aussi, qui est dans le centre d'Agneau, qui fait que du vrac. Après, il faut se méfier des prix. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui vont être comme par exemple la Cigale et la Fourmi, qui sont bien. Ils ont une grande surface quand même, donc il y a des prix corrects. Après, c'est comme tout, faire attention. Hein. Mais il y a des endroits de vrac. Alors, l'entrepôt, ça va. Il y en a d'autres sur Strasbourg où c'est pas tout à fait les mêmes prix. Donc, il faut quand même se méfier. C'est pas parce que c'est du vrac ou que c'est du bio, voilà, que. Il faut acheter les yeux fermés, il faut aussi comparer et faire attention, quoi.
Inversement, par rapport au zéro déchet, il y a de plus en plus en France de déchetteries sauvages et d'autres à découvert. D'après vous, y a-t-il des solutions rapides qui pourraient être mises en place en dehors du fait que pour le moment, zéro déchet n'est pas encore à l'ordre du jour pour la plupart des Français à ce sujet ?
La difficulté des déchetteries sauvages, alors c'est qu'il y en a plein partout, hein, et des fois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Hein. Je sais, il y en a une près de Nîmes, près de Nîmes-Gare, il y en a une. La difficulté souvent c'est que bah, c'est dans les petits coins discrets, donc du coup ça se voit pas forcément, et la difficulté derrière c'est que souvent au niveau des entreprises, donc beaucoup de bâtiments, hein, parce que souvent c'est eux qui font, après pas que, hein, y a beaucoup de particuliers qui font n'importe quoi, mais qui du coup ne vont plus dans les déchetteries, parce que les déchetteries on les paye maintenant, quasiment tous les déchetteries, il y a un système de carte, vous êtes autorisé à temps dans l'année de passage, et pour par exemple quelqu'un qui est dans le bâtiment, ça représente quand même pas mal de sous. Et du coup, on pourrait imaginer d'autres systèmes, toujours avec un système de carte, mais par exemple un système dégressif, en disant bah voilà, plus vous allez venir à la déchetterie, moins vous allez payer sur l'année, parce que vous faites un effort de recyclage, de traitement des déchets, etc. quoi. Donc on pourrait imaginer d'autres systèmes. Et après, tout simplement, quand quelqu'un se rend compte qu'il y a un endroit, une déchetterie sauvage ou qu'il y a un amas de déchets, etc. Je sais pas, créer une application de la mairie ou un numéro spécial pour dire, bah voilà, à tel endroit, il y a un amas de déchets, c'est dégueulasse, ça peut créer des maladies, enfin voilà, il peut y avoir des rats qu'on a, ce qu'on veut, qui peuvent se rajouter derrière. Et du coup, créer quelque chose de spécifique, connu de tous, parce qu'après, il y a des choses qui existent mais qui sont pas connues. Ça, c'est aussi après la difficulté des fois de la communication. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. On ne peut pas tout faire, c'est-à-dire que c'est vraiment du petit à petit, ça c'est clair. Mais il y a beaucoup de choses qui commencent à venir, qui commencent à monter. Mais il faut aussi, à un moment, que pour rejoindre ce que la question précédente un petit peu, c'est le côté politique. Mmh. Tant que le politique ne sera pas saisi, mais réellement, c'est-à-dire au-delà juste des mots et des mmh. belles promesses, etc., qu'il n'y aura pas vraiment des actes concrets qui seront mis en place, il y a une grande difficulté. Il y a le monde du zéro déchet, en fait, est partagé entre un grand optimiste de « on va y arriver », etc., et un côté de « je fais ma part », mais en même temps, on est dans une planète à des ressources finies, et on continue comme ça, et il y a beaucoup d'études, hein, qu'on peut dire alarmistes ou non, mais qui disent dans les années à venir, c'est en gros, si on ne fait pas un virage à 180 degrés, en gros, c'est foutu, hein, ça ne sert plus à rien de se battre, parce que dans les quelques années à venir, c'est maintenant qu'il faut bouger. Ce n'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est là, c'est dans l'année, c'est dans les 2 ans, dans 3 ans à venir. Il y a des études très sérieuses qui montrent que, voilà, par exemple, tout simplement, tous les ans, il y a un chiffre à un moment, souvent c'est au mois d'août à peu près, qui dit, bon, bah voilà, là, on a dépassé toutes les ressources annuelles de la planète, ce qu'elle pouvait nous donner. Tout ce qui vient après, on consomme de plus en plus dans ces ressources qui ne seront pas reconstruites derrière. Mmh. Et ça, c'est un chiffre qui avance tous les ans. Et ça, c'est genre, ah oui, c'est triste, oh mon Dieu. Mais il y a plein de gens qui disent, ah oui, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, faire de la communication autour de tout ça et dire que bah, des fois, c'est juste des petits gestes qui vont faire la différence. Éviter le plastique à l'achat, parce que c'est comme tout, on est acteur quand même de notre consommation.
Tout à fait.
Si nous, on refuse d'acheter tous les aliments, en tout cas, on les limite, tous les aliments qui ont beaucoup de plastique, bah forcément, l'industriel, à un moment, il va s'adapter. Il va se dire, ah mince, on n'achète plus ces produits-là. Et donc, si on ne les achète plus, moi, en tant qu'industriel, je perds de l'argent. Donc, il faut que je m'adapte et aller sur d'autres choses.
Tout à fait.
Donc, on a vraiment un rôle en tant que le consommateur, comme on dit. C'est vraiment ça. Et souvent, les gens oublient ça.
Une autre facette d'éviter le gâchis, comment réduire sa consommation en eau ? Et je pense particulièrement à l'eau des toilettes, par exemple.
Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est un non-sens, à mon sens complètement. C'est on utilise de l'eau potable pour les toilettes. Et il y a des pays ou des structures qui ont fait le cheminement inverse, c'est-à-dire qui récupèrent pour la douche ou pour les toilettes l'eau qu'on utilise, qui va passer dans un filtre spécifique qui va enlever bah, voilà, tout ce qui traîne dans l'eau, qui pourrait être néfaste ou les petits aliments, etc. Et qui va réutiliser cette eau-là. Et il y a quelques années, il y a peut-être un an ou deux ans, on voyait beaucoup sur Facebook, et sur les réseaux sociaux de manière générale, quelqu'un qui avait inventé justement un système pour la douche, pour la baignoire et pour l'eau des toilettes. Et l'État avait même dit oui, c'est une super idée, etc. On pourrait peut-être essayer de le mettre dans le bâti neuf, d'en faire la promotion, etc. Alors après, je suis pas un spécialiste du bâtiment, mais à mon sens, je pense pas que c'est aller plus loin que ça, quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses qui existent et qui, effectivement, coûtent de l'argent, ça c'est sûr. Mais entre l'investissement de cet appareil qui peut recycler l'eau et sur le nombre d'années que ça va durer et l'eau qui ne coûte quand même pas rien, je veux dire, c'est quand même un coût aujourd'hui et c'est une ressource limitée, ce qu'on oublie aussi souvent, mais c'est une ressource limitée. Il y a vraiment des moyens de faire des choses concrètes. Alors, effectivement, c'est comme partout. Certaines personnes pourront déjà l'acheter, l'installer, et d'autres, tout simplement, du fait de l'appartement, si on est dans un appartement, une maison, un immeuble, enfin voilà, c'est pas la même chose. On pourra pas forcément le faire, mais il y a des choses qui existent, souvent peu connues, mais qui existent pour justement réduire ce genre de choses, quoi.
J'ai un exemple de comportement d'un ami, et j'aimerais savoir... si vous êtes en accord avec ce comportement-là. Cet ami a demandé à la vendeuse d'un supermarché de ne pas emballer le fromage doublement.
Oui.
Du coup, elle a dit qu'elle n'avait pas le droit de mettre un emballage unique. Alors, mon ami a dit qu'il n'achèterait pas le fromage.
Oui.
Résultat, elle a accepté de mettre qu'un seul emballage. Oui. Est-ce qu'on devrait, quelque part, tous agir de cette manière-là pour marquer notre désaccord ? Est-ce que vous pouvez approuver ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui... En fait, il faut séparer deux choses. Il y a le fromage, donc le producteur, etc. Après, il y a effectivement le magasin qui va vendre le dit fromage. Et après, il y a le plastique.
Okay.
En soi, déjà, faire la démarche, c'est déjà une bonne chose. Parce que si tous les clients lui demandent, oui, est-ce qu'on peut éviter de mettre...
Mais ça fait un, réfléchir.
Deux, ça fait réfléchir. À un moment, on se dit, ouais, mais en fait, pourquoi j'en mets deux ? Ça se trouve, un seul, ça suffirait, effectivement. Donc, voilà, il y a une réflexion qui peut s'engager. Et après, des fois, effectivement, il y a des consignes qui sont données qui ne peuvent pas faire autrement. Moi, par exemple, dans mon utilisation quotidienne, dans ma manière de faire, je sais que, par exemple, quand je vais prendre du fromage ou de la viande, par exemple, pour tarer, au niveau de la balance, certains magasins me disent « Non, je suis désolé, je ne peux pas tarer avec votre tube. Je suis obligé de mettre une feuille plastique. » Pour tarer. Parce que sinon, c'est trop compliqué. C'est un système, il faut que je passe derrière. Ils n'ont pas le temps de s'amuser à ça. Quoi.
Bah oui.
Donc, je dis, bon, OK, tu prends juste la feuille. Il y a des magasins qui vont prendre cette feuille-là et qui vont la réutiliser pour les deux, trois trucs que vous allez prendre. Il y a des magasins qui vont faire feuille par feuille et d'autres qui vont dire, bon, bah OK, il y a juste eu un morceau de fromage dessus, c'est pas grave, je la remets sur le côté puis je la réutiliserai. En soi, tout est c'est pasteurisé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quoi. Mais... la démarche est déjà... Enfin, j'approuve cette démarche parce que déjà, ça fait réfléchir. C'est déjà quelque chose. Après, acheter ou pas acheter, ça, c'est sa conscience aussi à soi de jusqu'où je veux aller. Mais le fait déjà qu'il ait fait cette démarche, qu'il ait posé la question, qu'il s'est dit, bon, bah voilà, j'assume mes convictions aussi. C'est-à-dire, c'est facile aussi de dire, oui, je veux réduire le plastique, etc. Mais derrière, continuer à acheter comme d'habitude, il y a beaucoup de gens qui le font et voilà, ils ne sont pas à blâmer, c'est un fonctionnement. Et c'est dur d'aller à l'encontre aussi d'un système qui est conçu pour acheter du plastique partout. Et c'est tellement présent qu'en fait, on ne s'en rend pas compte. C'est ça aussi la difficulté.
Quelle est, selon vous, la solution pour bouger les entreprises et les politiques pour diminuer les déchets?
Alors déjà, beaucoup plus de communication. Au niveau des entreprises, ça commence à venir parce qu'il y a des lois qui sont passées pour essayer de réduire les choses. Il y a des structures, des entreprises qui sont créées, parce que c'est aussi un marché après, mais qui sont créées par rapport à ça, pour le recyclage des papiers, le tri, tout ça. Mais globalement, à mon sens, tant que la politique n'aura pas fait des lois, des choses très concrètes et vraiment volontaristes, parce que souvent on fait des lois, mais par exemple pour la réduction du plastique dans les magasins, ça a pris des années avant que ça soit appliqué. On peut faire des lois, c'est beau, tant que le décret n'est pas passé, tant que l'application ne se fait pas avant un an, deux ans, cinq ans, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout nier en disant c'est n'importe quoi. C'est déjà quelque chose, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mon sens, on peut plus se permettre d'attendre un an, deux ans, cinq ans avant l'application d'une loi. Quand on regarde par exemple juste le plastique dans les magasins, la plupart des gens s'y font. Le plastique qui recouvre vos légumes quand vous les achetez, c'est du plastique biodégradable. Oui, c'est sûr, c'est bien. Mais si on pouvait mettre du Kraft qui se recycle du coup et pas le plastique qui se biodégrade, ça serait déjà quelque chose. Tous les magasins bio, ils n'ont pas de plastique pour les légumes. C'est du Kraft. Donc si on allait plus loin, pas dans un extrême forcément, mais en tout cas faire une démarche beaucoup plus actrice de tout ça et de réduire effectivement le déchet le plus possible à la source, je pense qu'on gagnerait aussi pas mal de choses dans l'ensemble.
Est-ce que, pour finir, est-ce que vous auriez peut-être l'adresse ou le site web de Zero Waste, par exemple, sur Strasbourg, ou d'autres associations qui sont dans le zéro déchet plus proche, sur Haguenau ou peut-être Vissembourg?
Alors, Haguenau, je ne sais pas s'il y a un Zero Waste, je ne sais pas du tout, je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, en tout cas, Strasbourg, il suffit juste de taper zéro déchet Strasbourg, vous le trouvez très facilement. Et ils sont vraiment très, très actifs. Je vous encourage à... Ils ont une page Facebook. Enfin, voilà, ils font souvent des conférences, des réunions. C'est une super équipe de bénévoles. Ils font beaucoup, beaucoup d'actions. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre. Et après, sur le site, eux vont aussi promouvoir d'autres associations, d'autres structures. Et donc, souvent, quand on commence à s'y intéresser, c'est, entre guillemets, c'est un petit monde. C'est-à-dire que petit à petit, après, on va connaître d'autres associations. Mais déjà, Zero Waste Strasbourg, c'est déjà une très bonne base parce qu'ils connaissent beaucoup de structures et ils peuvent aiguiller aussi selon ce que vous voulez faire vers telle ou telle action. Mais comme dit, déjà, juste une action, soit de tous les jours, d'essayer de réduire au maximum les déchets qu'on fait et d'y aller aussi progressivement. C'est-à-dire pas y aller trop fortement. Souvent, quand on commence pour mon expérience, qu'on commence à faire ce genre de choses, y a un moment en fait où on devient dans l'extrême. Mmh. C'est-à-dire que c'est tellement énervant de voir du plastique partout, ou des déchets partout, des non-sens partout, qu'il y a un moment en fait où on rentre dans l'extrême. Mmh. Et moi je suis allé là-dessus, et en fait après j'en suis revenu un peu, parce que notre vie devient une contrainte.
Ouais.
Et le but, c'est pas que notre vie soit une contrainte, elle est déjà assez compliquée comme ça, c'est qu'on puisse vivre avec nos convictions. Et donc, maintenant, je me dis, je fais au mieux de ce que je peux, au jour même. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bah voilà, moi aussi, je vais acheter du plastique, je fais avec ce que je peux. Il y a des choses où on va acheter, mais c'est emballé, bah oui, mais on n'a pas le choix. Mais d'un autre côté, il faut manger, il faut vivre, il faut profiter. La vie, elle est aussi faite pour profiter. On peut pas s'auto-gâcher la vie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que déjà, c'est tout compliqué dans la vie. Si on se rajoute des contraintes tout le temps, il y a des mini-contraintes. C'est-à-dire que des fois, c'est juste des changements de mentalité, ou comme vous disiez tout à l'heure, ou des changements de manière de faire. C'est-à-dire que je ne vais plus acheter tel truc à tel magasin parce qu'il y a trois couches de plastique. Mais par contre, je vais l'acheter à tel magasin parce qu'effectivement, il est soit en vrac ou soit il est en direct et du coup, il n'y a pas de produit. Par exemple, tout ce qui est bio en supermarché, il faut éviter. Mmh. Parce que bon, déjà, le bio en supermarché, des fois, c'est un peu un non-sens. Mais en soi, quand ils vendent du bio sur-emballé, parce qu'il ne faut pas que ça soit mélangé avec les autres produits qui sont dits conventionnels, vous avez le plastique qui est autour du fruit, plus derrière encore l'emballage, plus le plastique qui recouvre tout ça. Si vous êtes dans une démarche zéro déchet, ou en tout cas tendre vert, il faut aller dans les magasins bio, et il y en a suffisamment. Après, c'est sûr, le bio, il n'est pas si cher que ça. Il faut aussi s'enlever cette idée-là. Mmh. Il faut faire attention à ce qu'on achète, ça c'est sûr. Votre mode de consommation, il va changer, parce que vous ne pouvez pas faire vos courses, de prendre, j'ai 150 euros de courses familiales, et je vais faire la même chose en magasin bio. Ah, c'est sûr, vous ressortez avec 300 euros de courses, ça c'est sûr. Parce que vous ne pouvez pas consommer exactement de la même manière. Ce n'est pas possible. Mais si vous modifiez un peu votre consommation, qui en soi ne changera pas grand-chose sur vos habitudes alimentaires, etc., là, vous gagnerez même de l'argent. Il y a beaucoup de magasins bio aujourd'hui qui existent, suffisamment grands pour avoir suffisamment de choix aussi. Okay. Quand vous allez sur des petits magasins, la difficulté, souvent, tout simplement pour vivre, c'est qu'ils sont obligés de mettre des prix un peu plus élevés. Mmh. Donc, je ne dis pas de ne pas y aller, hein, ça dépanne et tout, c'est super. Mais c'est sûr que vous allez sur, par exemple, des magasins comme Côté Nature, qui sont comme La Cigale et la Fourmi, un peu plus gros. Vous avez plus de choix, il y a du vrac, il y a un peu de tout. Il y a plein de produits que vous retrouverez comme si c'était en supermarché, avec d'autres marques, ça c'est sûr. Mais qui sont à des prix tout à fait corrects, quoi.
Merci beaucoup, Yann Lejeune, pour tous ces...
Merci d'avoir accepté de m'interviewer.
Et bien, peut-être une prochaine dans notre rendez-vous Zone Libre. Merci beaucoup.